Radio Okapi.
Le journal, Agathe Pomaleba.
Okapi.
La situation reste stable au front entre le M23 et les FRDC. Des tirs ont encore été entendus au nord du groupement Kibati à 20 km de Goma ce matin. Les deux parties se rejettent la responsabilité des tirs et pour l'instant les FRDC consolident leur position près de Kibumba. Le M23 se cantonne à l'entrée de Buumba vers la frontière avec le Rwanda. Conflit de succession dans le groupement de Kabongo au Katanga. Bilan, 4 morts et plusieurs blessés suite à des affrontements à l'arme blanche. Récit des faits dans ce journal. 29 tonnes de fournitures scolaires pour 30 écoles de la province du Maniema. Il s'agit d'un don d'une entreprise minière remis officiellement hier par le gouverneur de province à l'occasion du lancement de l'année scolaire 2013-2014. Bonjour et bienvenue à cette édition de la mi-journée sur Radio Okapi. La situation dans le Nord Kivu continue de faire l'actualité. Des tirs ont encore été entendus ce dimanche matin dans la zone de combat opposant les FARDC aux combattants du M23 au nord du groupement Kibati. Nous sommes là bien à une vingtaine de kilomètres au nord de la ville. Pour des sources locales, c'est depuis hier, en début d'après-midi, que ces tirs sont entendus dans cette zone de combat qui jusque-là reste instable. Les FARDC et le M23 se rejettent mutuellement la responsabilité de l'attaque. Bernardin Nyangui, selon les différentes sources que vous avez contactées, dites-nous comment se présente la situation sur place.
Vers 8 heures locales ce dimanche, des tirs ont été entendus dans cette zone de combat, affirment certains habitants de Kanyaruchinya. Pour ces derniers, bien que des combats ne soient intenses, la région demeure instable depuis la reprise des combats hier vers 13 heures dans cette zone. Dans un communiqué officiel ce matin, la direction du mouvement du 23 mars accuse les FARDC d'avoir lancé l'attaque contre leur position de Kibumba et Buumba, ce qui pour le porte-parole de ce mouvement viole le cessez-le-feu unilatéral que le M23 venait de mettre en exécution en retirant vendredi matin ses troupes de la ligne de front au niveau des trois antennes. Mais côté FARDC, le porte-parole militaire au Nord Kivu rejette ces allégations. Pour lui, c'est plutôt le M23 qui, voulant faire un percé vers Kanyaruchinya, attaque depuis hier les nouvelles positions avancées des FARDC. Jusqu'à là, selon les sources dans la région, les FARDC consolident toujours leur position un peu au-delà des trois antennes, près de Kibumba, alors que le M23 a concentré ses troupes dans la localité Mboga à l'entrée sud de Kibumba et Kabouyi à l'entrée de Buumba. Goma, Bernardin Nyangui, Radio Okapi.
Merci Bernardin. Et de la même province, nous apprenons que le 7e sommet extraordinaire des présidents et gouvernements des pays membres de la CIRGL sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC se tiendra jeudi 5 septembre à Kampala en Ouganda. L'annonce a été faite par le chargé de communication de la CIRGL. Dans son communiqué de presse datant d'hier, McDonald Mwaka Sendile précise que ce sommet sera précédé de la réunion des ministre de la Défense et de celle du comité régional interministériel des ministres des Affaires étrangères des pays membres de la CIRGL. Katanga à présent. 4 morts et plusieurs blessés, c'est le bilan des affrontements à l'arme blanche entre deux familles hier à Makwidi, une localité située à 270 km à l'est de la cité de Kamina. Au Katanga, bien sûr. À la base, la mort d'un prétendant à la succession du chef de groupement de Makwidi. Sa famille s'est attaquée à l'autorité traditionnelle, l'accusant d'avoir empoisonné leur frère. Ils en ont suivi une bagarre généralisée. Le récit des faits avec vous, Hippolyte Kalinga, de la radio communautaire de Kamina.
Tout est parti de la mort la nuit de vendredi à samedi de Kisengole, un prétendant remplaçant du chef de groupement Makwidi. Selon les sources locales, il est décédé après avoir pris l'alcool indigène, version rejetée par les membres de sa famille. Pour eux, leur frère a bel et bien été empoisonné par les chefs de groupement de Makwidi. Le défunt habitait la localité de Kimé à 70 km de Makwidi. Hier, un camion loué par sa famille éprouvée, avec une cinquantaine de personnes à bord, quitte Kimé pour les cimetières au chef-lieu de son groupement. Une fois arrivée, la famille du défunt s'attaque au chef de groupement. Selon les sources policières, après quelques minutes de discussion, ils l'ont attrapé et coupé la tête à l'aide d'une hache. Il s'en est suivi d'une bagarre entre les deux familles. Selon les mêmes sources, 4 personnes sont tuées, dont le père du défunt venu de Kimé et le secrétaire du groupement. On a enregistré également plusieurs blessés dans les deux camps. Dans la soirée, un renfort renfort de la police a été dépêché à partir de Lengue, à plus de 70 km de Kimé, pour mettre fin à cette situation. Hippolyte Kalenga, Radio Communautaire du Katanga pour Radio Okapi.
Un autre affrontement à l'arme blanche entre civils, cette fois-ci en Ituri. Toutes les cases du village de Niaï, en territoire d'Arou, ont été incendiées vendredi dernier. C'était dans des combats qui ont opposé les habitants de ce village à leurs voisins du village d'Oniba. Un administrateur du territoire assistant à Arou a tenté de réconcilier hier samedi les deux parties, mais sans succès. Et pour le moment, les deux villages en conflit ne disposent d'aucun élément de la police nationale pour calmer la situation. Le reportage est de Jean-Paul Bassila, rendu par Jean-Claude Loki.
Vendredi dernier, c'était la troisième bagarre rangée qui oppose les habitants de Niaï et d'Oniba depuis le 21 août 2013 dernier. Cette fois-là, plus de 300 personnes venues d'Oniba et armées de machettes, flèches et lances ont envahi le village de Niaï et se sont attaquées à ses habitants. Jean-Louis Liendo Munga Konga, administrateur du territoire assistant d'Arou en visite sur le lieu de bagarre hier samedi, déclare qu'il y a eu 19 blessés graves, parmi eux 4 femmes et 3 enfants, tous habitants de Niaï. Ils sont internés dans des centres de santé périphériques où ils sont soignés grâce aux médicaments fournis par la MONUSCO. Cette autorité de la territoriale ajoute que lui et des policiers qui l'ont escorté ont été menacés par un groupe d'hommes munis d'armes blanches et en état d'ébriété venus de Niba et qui s'opposent à toute tentative de règlement pacifique de ce conflit. Ainsi, cette autorité et ses policiers se sont retirés pour éviter tout accrochage avec leurs hôtes. Signalons que les habitants de Niba et de Niaï se disputent depuis quelques semaines le contrôle d'un pâturage collectif. Bounia, Jean-Claude Loki, Radio Okapi.
Revenons au Katanga pour parler cette fois-ci de ce qui s'est passé vendredi dernier entre le gouverneur de province et les humanitaires qui œuvrent dans la province. Ils se sont rencontrés avec pour objectif passer en revue les différentes priorités des humanitaires, notamment en rapport avec la situation des déplacés qui sont dans le nord du Katanga. Au cours de cette rencontre, il a été décidé que les humanitaires travaillent en synergie avec le gouvernement provincial afin de combler les besoins des déplacés. On écoute Saïdou Amani, chef de sous-bureau Otcha Katanga, au micro de Jean Gandou.
Nous avions débattu des besoins humanitaires assez croissants, que ce soit envers les populations déplacées qui tournent autour de 400 000 dans toute la province, et de voir ensemble comment est-ce que nous pouvons conjuguer nos efforts pour pouvoir traverser la période de soudure qui va de décembre à mai. Au cours de cette période-là, on sait que ce sera une période creuse, il n'y aura pas de production agricole, donc de voir comment avec les structures gouvernementales, les agences des Nations Unies, certaines ONG, comment pouvoir accompagner les populations locales pour pouvoir subvenir à leurs besoins agricoles. Il a été décidé qu'il y ait une rencontre entre les acteurs humanitaires et les ministres de l'Agriculture, ministres de la Santé, ministres de l'Action Humanitaire, pour voir où est-ce que les humanitaires interviennent, quels sont les gaps et voir comment est-ce qu'on pourrait combler ces gaps-là. Donc, travailler en synergie pour pouvoir combler ces besoins-là.
À Kindu, lancement officiel hier de la rentrée scolaire 2013-2014 par le gouverneur de province du Maniema. La cérémonie s'est déroulée dans la commune de Kasuku. Elle a été marquée par la remise symbolique des cahiers destinés aux élèves du primaire pour 30 écoles. Il s'agit d'un don de 29 tonnes de fournitures scolaires d'une entreprise de commercialisation de minerais. Rigobert Yumandouani nous fait vivre l'événement.
Le gouverneur Pascal Toutou Salomon remet ici 10 cahiers à l'élève Zaïna de la 6e primaire. C'était devant les autorités politico-administratives et de l'éducation, mais aussi les acteurs et partenaires éducationnels, dont le président provincial de l'ANAPECO, M. Rachidi, qui demande à ce que ce don arrive à destination. Nous espérons que ce don arrivera à nos enfants du primaire et que chaque école puisse distribuer ses cahiers aux enfants sans les détourner ailleurs. La réponse du gouverneur est venue appuyer cette requête des parents en promettant des sanctions à tout celui qui va détourner ce don.
Ce cahier, c'est pour les enfants, rien que pour les enfants. Et quiconque donc osera détourner ce cahier vers une autre destination trouvera le gouvernement provincial sur son chemin.
À cette occasion, le directeur de la province éducationnelle du Maniema a confirmé officiellement la rentrée scolaire 2013-2014 pour lundi 2 septembre prochain à 7h30. Il a par ailleurs rappelé aux différents responsables scolaires les dispositions pratiques pour débuter en beauté cette année scolaire. Kindu, Rigobert Yumandouani Walumba, Radio Kapi.
En sport, parlons de la compétition interclub de la CAF. Le tout-puissant Mazembe reçoit le club athlétique Bizertin de Tunisie. Un match comptant pour la quatrième journée de la phase de poule en Coupe de la Confédération. Après le nul d'un but partout vendredi entre l'entente de Sétif et le FUS de Rabat, les corbeaux de Lubumbashi ont la possibilité de reprendre la tête du classement en cas de victoire cet après-midi. Et avant de clore définitivement ce journal, sachez que l'ancien président sud-africain Nelson Mandela, 95 ans, est sorti ce dimanche de la clinique de Pretoria où il était hospitalisé depuis près de 3 mois, a annoncé la présidence sud-africaine dans un communiqué. Ce communiqué indique que son état reste critique et parfois instable. Nelson Mandela pourra recevoir chez lui des soins intensifs du même ordre qu'à la clinique. Cependant, il pourra de nouveau être admis à l'hôpital à l'avenir si son état de santé le justifie, selon toujours le même communiqué. Merci de votre attention.
Au capi, au capi, eh. Radio, au capi.